Sodome et Gomorre, deuxième partie, chapitre 1, suite 2. Alors, du fond de ces jardins, où jadis le duc d'Aiguillon faisait élever les animaux rares, vint jusqu'à moi, par les portes grandes ouvertes, le bruit d'un reniflement qui humait tant d'élégance et n'en voulait rien laisser perdre. Le bruit se rapprocha, je me dirigeai à tout hasard dans sa direction. Si bien que le mot « bonsoir » fut susurré à mon oreille par M. de Bréauté, non comme le son ferrailleux et ébréché d'un couteau qu'on repasse pour l'aiguiser, encore moins comme le cri du marcassin dévastateur des terres cultivées, mais comme la voix d'un sauveur possible. Moins puissant que Madame de Souvré, mais moins foncièrement atteint qu'elle d'inserviabilité, beaucoup plus à l'aise avec le prince que ne l'était Madame d'Arpajon, se faisant peut-être des illusions sur ma situation dans le milieu des guermantes, ou peut-être la connaissant mieux que moi, j'eus pourtant, les premières secondes, quelque peine à capter son attention, car les papilles du nez frétillantes, les narines dilatées, il faisait face de tous côtés, écarquillant curieusement son monocle, comme s'il s'était trouvé devant 500 chefs-d'œuvre. Mais ayant entendu ma demande, il l'accueillit avec satisfaction, me conduisit vers le prince et me présenta à lui d'un air friand, cérémonieux et vulgaire, comme s'il lui avait passé, en les recommandant, une assiette de petit four. Autant l'accueil du duc de Guermantes était, quand il le voulait, aimable, empreint de camaraderie, cordial et familier, autant je trouvai celui du prince compassé, solennel, hautain. Il me sourit à peine, m'appela gravement « monsieur ». J'avais souvent entendu le duc se moquer de la morgue de son cousin, mais au premier mot qu'il me dit, et qui, par leur froideur et leur sérieux, faisait le plus anti-contraste avec le langage de Bazin, je compris tout de suite que l'homme foncièrement dédaigneux était le duc qui vous parlait dès la première visite de « père à compagnon », et que des deux cousins, celui qui était vraiment simple, c'était le prince. Je trouvai dans sa réserve un sentiment plus grand, je ne dirais pas d'égalité, car ce n'eût pas été concevable pour lui, au moins de la considération qu'on peut accorder à un inférieur, comme il arrive dans tous les milieux fortement hiérarchisés, au palais, par exemple, dans une faculté, où un procureur général ou un doyen, conscient de leur haute charge, cache peut-être plus de simplicité réelle, et, quand on les connaît davantage, plus de bonté, de simplicité vraie, de cordialité, dans leur hauteur traditionnelle que de plus moderne dans l'affectation de la camaraderie badine. « Est-ce que vous comptez suivre la carrière de monsieur votre père ?» me dit-il d'un air distant, mais d'intérêt. Je répondis sommairement à sa question, comprenant qu'il ne l'avait posée que par bonne grâce, et je m'éloignai pour le laisser accueillir les nouveaux arrivants. J'aperçus Swann, voulut lui parler, mais à ce moment je vis que le prince de Guermantes, au lieu de recevoir sur place le bonsoir du mari d'Odette, l'avait aussitôt, avec la puissance d'une pompe aspirante, entraîné avec lui au fond du jardin, même, dirent certaines personnes, afin de le mettre à la porte. Tellement distrait dans le monde que je n'appris que le surlendemain par les journaux qu'un orchestre tchèque avait joué toute la soirée et que, de minute en minute, s'étaient succédé les feux de Bengale. Je retrouvai quelques facultés d'attention à la pensée d'aller voir le célèbre jet d'eau d'Hubert Robert. Dans une clairière, réservée par de beaux arbres dont plusieurs étaient aussi anciens que lui, plantés à l'écart, on le voyait de loin, svelte, immobile, durci, ne laissant agiter par la brise que la retombée plus légère de son panache pâle et frémissant. Le XVIIIe siècle avait épuré l'élégance de ses lignes, mais, fixant le style du G, semblait en avoir arrêté la vie. À cette distance, on avait l'impression de l'art plutôt que la sensation de l'eau. Le nuage humide lui-même, qui s'amoncelait perpétuellement à son faîte, gardait le caractère de l'époque, comme ceux qui, dans le ciel, s'assemblent autour des palais de Versailles. Mais de près, on se rendait compte que, tout en respectant, comme les pierres d'un palais antique, le dessin préalablement tracé, c'étaient des eaux toujours nouvelles qui, s'élançant et voulant obéir aux ordres anciens de l'architecte, ne les accomplissaient exactement qu'en paraissant les violer, leurs mille bonds épars pouvant seuls donner à distance l'impression d'un unique élan. Celui-ci était en réalité aussi souvent interrompu que l'éparpillement de la chute, alors que, de loin, il m'avait paru infléchissable, dense, d'une continuité sans lacune. D'un peu près, on voyait que cette continuité, en apparence toute linéaire, était assurée à tous les points de l'ascension du G, partout où il aurait dû se briser, par l'entrée en ligne, par la reprise latérale d'un G parallèle qui montait plus haut que le premier et était lui-même à une plus grande hauteur, mais déjà fatigante pour lui, relevée par un troisième. De près, des gouttes sans force retombaient de la colonne d'eau, en croisant au passage leur sœur montante, et, parfois déchirées, saisies dans un remous de l'air troublé par ce jaillissement sans trêve, flottaient avant d'être chavirées dans le bassin. Elles contrariaient de leurs hésitations, de leur trajet en sens inverse, et estompaient de leur molle vapeur la rectitude et la tension de cette tige, portant au-dessus de soi un nuage oblong fait de mille gouttelettes, mais en apparence peint en brun doré et immuable, qui montait, infrangible, immobile, élancé et rapide, s'ajouter au nuage du ciel. Malheureusement, un coup de vent suffisait à l'envoyer obliquement sur la terre. Parfois même, un simple jet désobéissant divergeait, et, si elle ne s'était pas tenue à une distance respectueuse, aurait mouillé jusqu'au moelle la foule imprudente et contemplative. Un de ces petits accidents, qui ne se produisait guère qu'au moment où la brise s'élevait, fut assez désagréable. On avait fait croire à Madame d'Arpajon que le duc de Guermantes, en réalité non encore arrivé, était avec Madame de Surgy dans les galeries de marbre rose où on accédait par la double colonnade, creusée à l'intérieur, qui s'élevait de la margelle du bassin. Or, au moment où Madame d'Arpajon allait s'engager dans l'une des colonnades, un fort coup de chaude brise tordit le jet d'eau et inonda si complètement la belle dame que l'eau dégoulinante de son décolletage dans l'intérieur de sa robe, elle fut aussi trempée que si on l'avait plongée dans un bain. Alors, non loin d'elle, un grognement scandé retentit assez fort pour pouvoir se faire entendre à toute une armée, et pourtant prolongé par période, comme s'il s'adressait non pas à l'ensemble, mais successivement à chaque partie des troupes. C'était le grand-duc Vladimir qui riait de tout son cœur en voyant l'immersion de Madame d'Arpajon. « Une des choses les plus gaies, aimait-il à dire ensuite, à laquelle il eut assisté de toute sa vie. » Comme quelques personnes charitables faisaient remarquer aux moscovites qu'un mot de condoléance de lui serait peut-être mérité et ferait plaisir à cette femme, qui, malgré sa quarantaine bien sonnée et tout en s'épongeant avec son écharpe, sans demander le secours de personne, se dégageait malgré l'eau qui souillait malicieusement la margelle de la vasque. Le grand-duc, qui avait bon cœur, crut devoir s'exécuter, et les derniers roulements militaires du rire à peine apaisés, on entendit un nouveau grondement, plus violent encore que l'autre. Bravo, la vieille ! S'écriait-il en battant des mains comme au théâtre. Madame d'Arpajon ne fut pas sensible à ce qu'on vantât sa dextérité aux dépens de sa jeunesse. Et comme quelqu'un lui disait, assourdi par le bruit de l'eau, que dominait pourtant le tonnerre de Monseigneur, « Je crois que son Altesse impériale vous a dit quelque chose. »« Non, c'était à Madame de Souvray, » répondit-elle. Je traversai les jardins et remontai l'escalier, où l'absence du prince, disparu à l'écart avec Swann, grossissait autour de Monsieur de Charlus la foule des invités. De même que, quand Louis XIV n'était pas à Versailles, il y avait plus de monde chez Monsieur, son frère. Je fus arrêté au passage par le baron, tandis que derrière moi, deux dames et un jeune homme s'approchaient pour lui dire bonjour. « C'est gentil de vous voir ici, » me dit-il en me tendant la main. « Bonsoir, madame de la Trémoille. Bonsoir, ma chère Herminie. » Mais sans doute le souvenir de ce qu'il m'avait dit sur son rôle de chef dans l'hôtel Guermantes lui donnait le désir de paraître éprouvé à l'endroit de ce qui le mécontentait, mais qu'il n'avait pu empêcher, une satisfaction à laquelle son impertinence de grand seigneur et son égayement d'hystérique donnèrent immédiatement une forme d'ironie excessive. « C'est gentil, » reprit-il, « mais c'est surtout bien drôle. » Et il se mit à pousser des éclats de rire qui semblèrent à la fois témoigner de sa joie et de l'impuissance où la parole humaine était de l'exprimer. Cependant que certaines personnes, sachant combien il était à la fois difficile d'accès et propre aux « sorties insolentes », s'approchaient avec curiosité et, avec un empressement presque indécent, prenaient leurs jambes à leur cou. « Allons, ne vous fâchez pas !» me dit-il en me touchant doucement l'épaule. « Vous savez que je vous aime bien. « Bonsoir, Antioche. Bonsoir, Louis-René. Avez-vous été voir le jet d'eau ?» me demanda-t-il sur un ton plus affirmatif que questionneur. « C'est bien joli, n'est-ce pas ? C'est merveilleux. Cela pourrait être encore mieux, naturellement, en supprimant certaines choses. Et alors, il n'y aurait rien de pareil en France. Mais tel que c'est déjà parmi les choses les mieux. Bréauté vous dira qu'on a eu tort de mettre des lampions. » pour tâcher de faire oublier que c'est lui qui a eu cette idée absurde. Mais, en somme, il n'a réussi que très peu à en les dire. C'est beaucoup plus difficile de défigurer un chef-d'œuvre que de le créer. Nous nous doutions du reste déjà vaguement que Bréauté était moins puissant qu'Hubert Robert. Je repris la file des visiteurs qui entraient dans l'hôtel. « Est-ce qu'il y a longtemps que vous avez vu ma délicieuse cousine Oriane ?» me demanda la princesse, qui avait depuis peu déserté son fauteuil à l'entrée, et avec qui je retournais dans les salons. « Elle doit venir ce soir. Je l'ai vue cet après-midi, » ajouta la maîtresse de maison. « Elle me l'a promis. Je crois du reste que vous dînez avec nous deux chez la reine d'Italie, à l'ambassade, jeudi. » « Il y aura toutes les altesses possibles. Ce sera très intimidant. » Elle ne pouvait nullement intimider la princesse de Guermantes, de laquelle les salons en foisonnaient et qui disait « Mes petits cobourgs !» comme elle eût dit « Mes petits chiens !» Aussi, madame de Guermantes dit-elle « Ce sera très intimidant. » Par simple bêtise qui, chez les gens du monde, l'emporte encore sur la vanité. À l'égard de sa propre généalogie, elle en savait moins qu'un agrégé d'histoire. Pour ce qui concernait ses relations, elle tenait à montrer qu'elle connaissait les surnoms qu'on leur avait donnés. M'ayant demandé si je dînais la semaine suivante chez la marquise de la Pommelière, qu'on appelait souvent la Pomme, la princesse, ayant obtenu de moi une réponse négative, se tut pendant quelques instants. Puis, sans aucune autre raison qu'un étalage voulu d'érudition involontaire, de banalité et de conformité à l'esprit général, elle ajouta « C'est une assez agréable femme, la Pomme !» Tandis que la princesse causait avec moi, faisaient précisément leur entrée le duc et la duchesse de Guermantes. Mais je ne pus d'abord aller au-devant d'eux, car je fus happé au passage par l'ambassadrice de Turquie, laquelle, me désignant la maîtresse de maison que je venais de quitter, s'écria en m'empoignant par le bras « Ah, quelle femme délicieuse que la princesse! Quel être supérieur à tous! Il me semble que si j'étais un homme !» ajouta-t-elle, avec un peu de bassesse et de sensualité orientale. « Je vouerais ma vie à cette céleste créature !» Je répondis qu'elle me semblait charmante, en effet, mais que je connaissais plus sa cousine, la duchesse. « Mais il n'y a aucun rapport !» me dit l'ambassadrice. « Oriane est une charmante femme du monde, qui tire son esprit de Mémé et de Babal, tandis que Marie-Gilberte, c'est quelqu'un !» Je n'aime jamais beaucoup qu'on me dise ainsi sans réplique ce que je dois penser des gens que je connais, et il n'y avait aucune raison pour que l'ambassadrice de Turquie eût, sur la valeur de la duchesse de Guermantes, un jugement plus sûr que le mien. D'autre part, ce qui expliquait aussi mon agacement contre l'ambassadrice, c'est que les défauts d'une simple connaissance, et même d'un ami, sont pour nous de vrais poisons, contre lesquels nous sommes heureusement mitridatés. Mais, sans apporter le moindre appareil de comparaison scientifique et parler d'anaphylaxie, disons qu'au sein de nos relations amicales ou purement mondaines, il y a une hostilité momentanément guérie, mais récurrente par accès. Habituellement, on souffre peu de ces poisons tant que les gens sont naturels. En disant « Babal »,« Mémé » pour désigner des gens qu'elle ne connaissait pas, l'ambassadrice de Turquie suspendait les effets du mitridatisme, qui d'ordinaire me la rendait tolérable. Elle m'agaçait, ce qui était d'autant plus injuste qu'elle ne parlait pas ainsi pour faire mieux croire qu'elle était intime de Mémé, mais à cause d'une instruction trop rapide qui lui faisait nommer ses nobles seigneurs selon ce qu'elle croyait la coutume du pays. Elle avait fait ses classes en quelques mois et n'avait pas suivi la filière. Mais en y réfléchissant, je trouvais à mon déplaisir de rester auprès de l'ambassadrice une autre raison. Il n'y avait pas si longtemps que, chez Oriane, cette même personnalité diplomatique m'avait dit, d'un air motivé et sérieux, que la princesse de Guermantes lui était franchement antipathique. Je crus bon de ne pas m'arrêter à ce revirement. L'invitation à la fête de ce soir l'avait amenée. L'ambassadrice était parfaitement sincère en me disant que la princesse de Guermantes était une créature sublime. Elle l'avait toujours pensé. Mais n'ayant jamais été jusqu'ici invitée chez la princesse, elle avait cru devoir donner à ce genre de non-invitation la forme d'une abstention volontaire par principe. Maintenant qu'elle avait été conviée, et vraisemblablement le serait désormais, sa sympathie pouvait librement s'exprimer. Il n'y a pas besoin, pour expliquer les trois quarts des opinions qu'on porte sur les gens, d'aller jusqu'au dépit amoureux, jusqu'à l'exclusion du pouvoir politique. Le jugement reste incertain. Une invitation refusée ou reçue le détermine. Au reste, l'ambassadrice de Turquie, comme disait la princesse de Guermantes qui passa avec moi l'inspection des salons, faisait bien. Elle était surtout fort utile. Les étoiles véritables du monde sont fatiguées d'y paraître. Celui qui est curieux de les apercevoir doit souvent émigrer dans un autre hémisphère, où elles sont à peu près seules. Mais les femmes pareilles à l'ambassadrice ottomane, toutes récentes dans le monde, ne laissent pas d'y briller, pour ainsi dire, partout à la fois. Elles sont utiles à ces sortes de représentations qui s'appellent une soirée, un raout, et où elles se feraient traîner, moribondes, plutôt que d'y manquer. Elles sont les figurantes sur qui on peut toujours compter, ardentes à ne jamais manquer une fête. Aussi, les sots jeunes gens, ignorant que ce sont de fausses étoiles, voient-ils en elles les reines du chic, tandis qu'il faudrait une leçon pour leur expliquer en vertu de quelle raison Madame Standish, ignorée d'eux et peignant des coussins, loin du monde, est au moins une aussi grande dame que la duchesse de Doudoville. Dans l'ordinaire de la vie, les yeux de la duchesse de Guermantes étaient distraits et un peu mélancoliques. Elle les faisait briller seulement d'une flamme spirituelle chaque fois qu'elle avait à dire bonjour à quelque ami. Absolument comme si celui-ci avait été quelque mot d'esprit, quelque trait charmant, quelque régal pour délicat, dont la dégustation a mis une expression de finesse et de joie sur le visage du connaisseur. Mais pour les grandes soirées, comme elle avait trop de bonjour à dire, elle trouvait qu'il eût été fatigant, après chacun d'eux, d'éteindre à chaque fois la lumière. Tel un gourmet de littérature, allant au théâtre voir une nouveauté d'un des maîtres de la scène, témoigne sa certitude de ne pas passer une mauvaise soirée en ayant déjà, tandis qu'il remet ses affaires à l'ouvreuse, sa lèvre ajustée pour un sourire sagace, son regard avivé pour une approbation malicieuse. Ainsi, c'était dès son arrivée que la duchesse allumait pour toute la soirée. Et tandis qu'elle donnait son manteau du soir, d'un magnifique rouge tiepolo, lequel laissa voir un véritable carcan de rubis qui enfermait son cou, après avoir jeté sur sa robe ce dernier regard rapide, minutieux et complet de couturière qui est celui d'une femme du monde, Oriane s'assura du scintillement de ses yeux, non moins que de ses autres bijoux. Quelques bonnes langues, comme M. de Janville eurent beau se répéter sur le duc pour l'empêcher d'entrer. « Mais vous ignorez donc que le pauvre mama est à l'article de la mort, on vient de l'administrer. »« je le sais, » répondit M. de Guermantes en refoulant le fâcheux pour entrer. « Le viatique a produit le meilleur effet, » ajouta-t-il en souriant de plaisir à la pensée de la redoute à laquelle il était décidé de ne pas manquer après la soirée du prince. « Nous ne voulions pas qu'on sût que nous étions rentrés, » me dit la duchesse. Elle ne se doutait pas que la princesse avait d'avance infirmé cette parole en me racontant qu'elle avait vu, un instant, sa cousine qui lui avait promis de venir. Le duc, après un long regard dont pendant 5 minutes il accabla sa femme, « J'ai raconté à Oriane les doutes que vous aviez. » Maintenant qu'elle voyait qu'ils n'étaient pas fondés et qu'elle n'avait aucune démarche à faire pour essayer de les dissiper, elle les déclara absurdes, me plaisanta longuement. « Cette idée de croire que vous n'étiez pas invité. Et puis, il y avait moi. Croyez-vous que je n'aurais pas pu vous faire inviter chez ma cousine ?» Je dois dire qu'elle fit souvent, dans la suite, des choses bien plus difficiles pour moi. Néanmoins, je me gardais de prendre ses paroles dans ce sens que j'avais été trop réservée. Je commençais à connaître l'exacte valeur du langage parlé ou muet de l'amabilité aristocratique. Amabilité heureuse de verser un baume sur le sentiment d'infériorité de ceux à l'égard desquels elle s'exerce. Mais pas pourtant jusqu'au point de la dissiper, car dans ce cas-là, elle n'aurait plus de raison d'être. « Mais vous êtes notre égale, sinon mieux !» semblaient par toutes leurs actions dire les Guermantes. Et ils le disaient de la façon la plus gentille que l'on puisse imaginer, pour être aimé, admiré, mais non pour être cru. Qu'on démêlât le caractère fictif de cette amabilité, c'est ce qu'ils appelaient être bien élevé. Croire l'amabilité réelle, c'était la mauvaise éducation. Je reçus du reste, à peu de temps de là, une leçon qui acheva de m'enseigner, avec la plus parfaite exactitude, l'extension et les limites de certaines formes de l'amabilité aristocratique. C'était à une matinée donnée par la duchesse de Montmorency pour la reine d'Angleterre. Il y eut une espèce de petit cortège pour aller au buffet, et en tête marchait la souveraine, ayant à son bras le duc de Guermantes. J'arrivais à ce moment-là. De sa main libre, le duc me fit au moins à 40 mètres de distance 1000 signes d'appel et d'amitié, et qui avaient l'air de vouloir dire que je pouvais m'approcher sans crainte, que je ne serais pas mangé tout cru à la place des sandwichs. Mais moi, qui commençais à me perfectionner dans le langage des cours, au lieu de me rapprocher même d'un seul pas, à mes 40 mètres de distance, je m'inclinais profondément, mais sans sourire, comme j'aurais fait devant quelqu'un que j'aurais à peine connu, puis continuais mon chemin en sens opposé. J'aurais pu écrire un chef-d'œuvre. Les Guermantes m'en eussent moins fait d'honneur que de ce salut. Non seulement il ne passa pas inaperçu aux yeux du duc, qui ce jour-là pourtant eut à répondre à plus de 500 personnes, mais à ceux de la duchesse, laquelle, ayant rencontré ma mère, le lui raconta, en se gardant bien de lui dire que j'avais eu tort, que j'aurais dû m'approcher. Elle lui dit que son mari avait été émerveillé de mon salut, qu'il était impossible d'y faire tenir plus de choses. On ne cessa de trouver à ce salut toutes les qualités, sans mentionner toutefois celle qui avait paru la plus précieuse, à savoir qu'il avait été discret. Et on ne cessa pas non plus de me faire des compliments, dont je compris qu'ils étaient encore moins une récompense pour le passé qu'une indication pour l'avenir, à la façon de celle délicatement fournie à ses élèves par le directeur d'un établissement d'éducation. N'oubliez pas, mes chers enfants, que ces prix sont moins pour vous que pour vos parents, afin qu'ils vous renvoient l'année prochaine. C'est ainsi que Madame de Marsante, quand quelqu'un d'un monde différent entrait dans son milieu, vantait devant lui les gens discrets, qu'on trouve quand on va les chercher, et qui se font oublier le reste du temps. Comme on prévient, sous une forme indirecte, un domestique qui sent mauvais, que l'usage des bains est parfait pour la santé. Pendant que, avant même qu'elle eût quitté le vestibule, je causais avec Madame de Guermantes, j'entendis une voix, d'une sorte qu'à l'avenir je devais, sans erreur possible, discerner. C'était, dans le cas particulier, celle de Monsieur de Vaugoubert, causant avec Monsieur de Charlus. Un clinicien n'a même pas besoin que le malade en observation soulève sa chemise, ni d'écouter la respiration. La voix suffit. Combien de fois plus tard fus-je frappé dans un salon par l'intonation ou le rire de tel homme, qui pourtant copiait exactement le langage de sa profession ou les manières de son milieu, affectant une distinction sévère ou une familière grossièreté, mais dont la voix fausse me suffisait pour apprendre. C'est un charlu, à mon oreille exercée, comme le diapason d'un accordeur. À ce moment, tout le personnel d'une ambassade passa, lequel salua M. de Charlus. Bien que ma découverte du genre de maladie en question datât seulement du jour même, quand j'avais aperçu M. de Charlus et Jupien, je n'aurais pas eu besoin, pour donner un diagnostic, de poser des questions, d'ausculter. Mais M. de Vaugoubert, causant avec M. de Charlus, parut incertain. Pourtant, il aurait dû savoir à quoi s'en tenir après les doutes de l'adolescence. L'inverti se croit seul de sa sorte dans l'univers. Plus tard seulement, il se figure, autre exagération, que l'exception unique, c'est l'homme normal. Mais, ambitieux et timoré, M. de Vaugoubert ne s'était pas livré depuis bien longtemps à ce qui eût été pour lui le plaisir. La carrière diplomatique avait eu sur sa vie l'effet d'une entrée dans les ordres. Combinée avec l'assiduité à l'école des sciences politiques, elle l'avait voué depuis ses 20 ans à la chasteté du chrétien. Aussi, comme chaque sens perd de sa force et de sa vivacité, s'atrophie quand il n'est plus mis en usage, M. de Vaugoubert, de même que l'homme civilisé qui ne serait plus capable des exercices de force, de la finesse d'ouïe de l'homme des cavernes, avait perdu la perspicacité spéciale qui se trouvait rarement en défaut chez M. de Charlus. Et aux tables officielles, soit à Paris, soit à l'étranger, le ministre plénipotentiaire n'arrivait même plus à reconnaître ceux qui, sous le déguisement de l'uniforme, étaient au fond ses pareils. Quelques noms que prononça M. de Charlus, indigné si on le citait pour ses goûts, mais toujours amusé de faire connaître ceux des autres, causèrent à M. de Vaugoubert un étonnement délicieux. Non qu'après tant d'années, il songeât à profiter d'aucune aubaine. Mais ces révélations rapides, pareilles à celles qui, dans les tragédies de Racine, apprennent à Athalie et à Abner que Joas est de la race de David, qu'Esther, assise dans la pourpre, a des parents youpins, changeant l'aspect de l'allégation de X, ou tel service du ministère des Affaires étrangères, rendaient rétrospectivement ces palais aussi mystérieux que le temple de Jérusalem ou la salle du trône de Suse. Pour cette ambassade, dont le jeune personnel vint tout entier serrer la main de M. de Charlus, M. de Vaugoubert prit l'air émerveillé d'Élise, s'écriant dans Esther « Ciel ! Quels nombreux essaims d'innocente beauté s'offrent à mes yeux en foule et sortent de tous côtés ! Quelle aimable pudeur sur leur visage est peinte !» Puis, désireux d'être plus renseigné, il jeta, en souriant à M. de Charlus, un regard niaisement interrogateur et concupissant. « Mais voyons, bien entendu !» dit M. de Charlus, de l'air docte d'un érudit parlant à un ignare. Aussitôt, M. de Vaugoubert, ce qui agaça beaucoup M. de Charlus, ne détacha plus ses yeux de ses jeunes secrétaires, que l'ambassadeur de X en France, vieux cheval de retour, n'avait pas choisi au hasard. M. de Vaugoubert se taisait. Je voyais seulement ses regards. Mais, habitué dès mon enfance à prêter, même à ce qui est muet, le langage des classiques, je faisais dire aux yeux de M. de Vaugoubert les vers par lesquels Esther explique à Élise que Mardochée a tenu, par zèle pour sa religion, à ne placer auprès de la reine que des filles qui y appartinssent. Cependant, son amour pour notre nation a peuplé ce palais de filles de Sion, jeunes et tendres fleurs par le sort agitées, sous un ciel étranger comme moi transplanté, dans un lieu séparé de profanes témoins. Il, l'excellent ambassadeur, m'est allé former son étude et ses soins. Enfin, M. de Vaugoubert parla, autrement que par ses regards. « Qui sait, dit-il avec mélancolie, si, dans le pays où je réside, la même chose n'existe pas ?»«
C'est probable, répondit M. de Charlus, à commencer par le roi Théodose, bien que je ne sache rien de positif sur lui. »
Oh, pas du tout.
Alors, il n'est pas permis d'en avoir l'air à ce point-là. Et il fait des petites manières. Il a le genre, ma chère, le genre que je déteste le plus. Je n'oserais pas me montrer avec lui dans la rue. Du reste, vous devez bien le connaître pour ce qu'il est. Il est connu comme le loup blanc.
Vous vous trompez tout à fait sur lui. Il est du reste charmant. Le jour où l'accord avec la France a été signé, le roi m'a embrassé. Je n'ai jamais été si ému.
C'était le moment de lui dire ce que vous désiriez.
Oh, mon Dieu, quelle horreur s'il avait seulement un soupçon. Mais je n'ai pas de crainte à cet égard.
Paroles que j'entendis, car j'étais peu éloignée, et qui firent que je me récitais mentalement. Le roi, jusqu'à ce jour, ignore qui je suis, et ce secret toujours tient ma langue enchaînée. Ce dialogue, moitié muet et moitié parlé, n'avait duré que peu d'instants, et je n'avais encore fait que quelques pas dans les salons avec la duchesse de Guermantes, quand une petite dame brune, extrêmement jolie, l'arrêta. « Je voudrais bien vous voir. D'Annunzio vous a aperçu d'une loge. Il a écrit à la princesse de T une lettre où il dit qu'il n'a jamais rien vu de si beau. Il donnerait toute sa vie pour 10 minutes d'entretien avec vous. En tout cas, même si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas, la lettre est en ma possession. Il faudrait que vous me fixiez un rendez-vous. Il y a certaines choses secrètes que je ne puis dire ici. Je vois que vous ne me reconnaissez pas, ajouta-t-elle en s'adressant à moi. Je vous ai connu chez la princesse de Parma, chez qui je n'étais jamais allée. L'empereur de Russie voudrait que votre père fût envoyé à Pétersbourg. Si vous pouviez venir mardi, justement Isvolsky sera là, il en parlerait avec vous. J'ai un cadeau à vous faire, chérie, ajouta-t-elle en se tournant vers la duchesse, et que je ne ferai à personne qu'à vous. Les manuscrits de 3 pièces d'Ibsen qu'il m'a fait porter par son vieux garde-malade. J'en garderai une et vous donnerai les 2 autres. Le duc de Guermantes n'était pas enchanté de ces offres. Incertain si Ibsen ou D'Annunzio étaient morts ou vivants, il voyait déjà des écrivains, des dramaturges, allant faire visite à sa femme et la mettant dans leurs ouvrages. Les gens du monde se représentent volontiers les livres comme une espèce de cube dont une face est enlevée, si bien que l'auteur se dépêche de faire entrer dedans les personnes qu'il rencontre. C'est déloyal, évidemment, et ce ne sont que des gens de peu. Certes, ce ne serait pas ennuyeux de les voir en passant, car grâce à eux, si on lit un livre ou un article, on connaît le dessous des cartes, on peut lever les masques. Malgré tout, le plus sage est de s'en tenir aux auteurs morts. Monsieur de Guermantes trouvait seulement parfaitement convenable le monsieur qui faisait la nécrologie dans le Gaulois. Celui-là, du moins, se contentait de citer le nom de monsieur de Guermantes en tête des personnes remarquées, notamment dans les enterrements où le duc s'était inscrit. Quand ce dernier préférait que son nom ne figurât pas, au lieu de s'inscrire, il envoyait une lettre de condoléances à la famille du défunt, en l'assurant de ses sentiments bien tristes. Que si cette famille faisait mettre dans le journal « Parmi les lettres reçues, citons celle du duc de Guermantes », etc. Ce n'était pas la faute de l'écotier, mais du fils, frère, père de la défunte, que le duc qualifiait d'arriviste, et avec qui il était désormais décidé à ne plus avoir de relation. Ce qu'il appelait, ne sachant pas bien le sens des locutions, « avoir maille à partir ». Toujours est-il que les noms d'Ibsen et d'Annunzio, et leur survivance incertaine, firent se froncer les sourcils du duc, qui n'était pas encore assez loin de nous pour ne pas avoir entendu les amabilités diverses de Madame Timoléon d'Amoncourt. C'était une femme charmante, d'un esprit comme sa beauté, si ravissant qu'un seul des deux eût réussi à plaire. Mais, née hors du milieu où elle vivait maintenant, n'ayant aspiré d'abord qu'à un salon littéraire, amie successivement, nullement amante, elle était de mœurs fort pure, et exclusivement de chaque grand écrivain qui lui donnait tous ses manuscrits, écrivait des livres pour elle, le hasard l'ayant introduite dans le faubourg Saint-Germain, ses privilèges littéraires l'y servirent. Elle avait maintenant une situation à n'avoir pas à dispenser d'autres grâces que celles que sa présence répandait. Mais habituée jadis à l'entregent, au manège, aux services à rendre, elle y persévérait, bien qu'ils ne fussent plus nécessaires. Elle avait toujours un secret d'État à vous révéler, un potentat à vous faire connaître, une aquarelle de maître à vous offrir. Il y avait bien dans tous ses attraits inutiles un peu de mensonge, mais il faisait de sa vie une comédie, d'une complication scintillante, et il était exact qu'elle faisait nommer des préfets et des généraux. Tout en marchant à côté de moi, la duchesse de Guermantes laissait la lumière azurée de ses yeux flotter devant elle. Mais dans le vague, afin d'éviter les gens avec qui elle ne tenait pas à entrer en relation, et dont elle devinait parfois, de loin, l'écueil menaçant. Nous avancions entre une double haie d'invités, lesquels, sachant qu'ils ne connaîtraient jamais Oriane, voulaient au moins, comme une curiosité, la montrer à leur femme. « Ursule, vite, vite! Venez voir Madame de Guermantes qui cause avec ce jeune homme !»
Et on sentait qu'il ne s'en fallait pas de beaucoup pour qu'ils fussent montés sur des chaises, pour mieux voir, comme à la revue du 14 juillet ou au Grand Prix. Ce n'est pas que la duchesse de Guermantes eût un salon plus aristocratique que sa cousine. Chez la première, fréquentaient des gens que la seconde n'eût jamais voulu inviter, surtout à cause de son mari. Jamais elle n'eût reçu Madame Alphonse de Rothschild, qui, amie intime de Madame de la Trémoille et de Madame de Sagan, comme Oriane elle-même, fréquentait beaucoup chez cette dernière. Il en était encore de même du baron Hirsch, que le prince de Galles avait amené chez elle, mais non chez la princesse, à qui il aurait déplu, et aussi de quelques grandes notoriétés bonapartistes ou même républicaines, qui intéressaient la duchesse, mais que le prince, royaliste convaincu, n'eût pas voulu recevoir. Son antisémitisme, étant aussi de principe, ne fléchissait devant aucune élégance, si accréditée fût-elle. Et s'il recevait Swann, dont il était l'ami de tout temps, étant d'ailleurs le seul des Guermantes qu'il appela Swann et non Charles, c'est que, sachant que la grand-mère de Swann, protestante mariée à un juif, avait été la maîtresse du duc de Berry, il essayait, de temps en temps, de croire à la légende qui faisait du père de Swann un fils naturel du prince. Dans cette hypothèse, laquelle était d'ailleurs fausse, Swann, fils d'un catholique, fils lui-même d'un Bourbon et d'une catholique, n'avait rien que de chrétien. « Comment, vous ne connaissez pas ces splendeurs ?» me dit la duchesse en me parlant de l'hôtel où nous étions. Mais après avoir célébré le « palais » de sa cousine, elle s'empressa d'ajouter qu'elle préférait mille fois son humble trou. « Ici, c'est admirable pour visiter, mais je mourrais de chagrin s'il me fallait rester accouché dans des chambres où ont eu lieu tant d'événements historiques. » Ça me ferait l'effet d'être restée après la fermeture, d'avoir été oubliée au château de Blois, de Fontainebleau, ou même au Louvre, et d'avoir comme seule ressource contre la tristesse de me dire que je suis dans la chambre où a été assassiné Modaleschi. Comme camomille, c'est insuffisant. Tiens, voilà Madame de Sainte-Verte. Nous avons dîné tout à l'heure chez elle. Comme elle donne demain sa grande machine annuelle, je pensais qu'elle serait allée se coucher. Mais elle ne peut pas rater une fête. Si celle-ci avait eu lieu à la campagne, elle serait montée sur une tapissière plutôt que de ne pas y être allée. En réalité, Madame de Sainte-Verte était venue, ce soir, moins pour le plaisir de ne pas manquer une fête chez les autres que pour assurer le succès de la sienne, recruter les derniers adhérents et, en quelque sorte, passer in extremis la revue des troupes qui devait le lendemain évoluer brillamment à sa garden party. Car, depuis pas mal d'années, les invités des fêtes Sainte-Verte n'étaient plus du tout les mêmes qu'autrefois. Les notabilités féminines du milieu guermantes, si clairsemées alors, avaient, comblées de politesse par la maîtresse de la maison, amené peu à peu leurs amis. En même temps, par un travail parallèlement progressif, mais en sens inverse, Madame de Sainte-Verte avait d'année en année réduit le nombre des personnes inconnues au monde élégant. On avait cessé de voir l'une, puis l'autre. Pendant quelque temps fonctionna le système des fournées, qui permettait, grâce à des fêtes sur lesquelles on faisait le silence, de convier les réprouvés à venir se divertir entre eux, ce qui dispensait de les inviter avec les gens de bien. De quoi pouvaient-ils se plaindre? N'avaient-ils pas Panem et Circenses, des petits fours et un beau programme musical? Aussi, en symétrie en quelque sorte avec les deux duchesses en exil, qu'autrefois, quand avait débuté le Salon Sainte-Verte, on avait vu en soutenir, comme deux cariatides, le fait chancelant, dans les dernières années, on ne distingua plus, mêlées au beau monde, que deux personnes hétérogènes, la vieille Madame de Cambremer et la femme à belle voix d'un architecte à laquelle on était souvent obligé de demander de chanter.
mais ne connaissant plus personne chez madame de Sainte-Verte, pleurant leur compagne perdue, sentant qu'elle gênait, elles avaient l'air prêtes à mourir de froid comme deux hirondelles qui n'ont pas émigré à temps. Aussi, l'année suivante, ne furent-elles pas invitées. Madame de Franquetot tenta une démarche en faveur de sa cousine, qui aimait tant la musique. Mais comme elle ne put pas obtenir pour elle une réponse plus explicite que ces mots, « Mais on peut toujours entrer écouter de la musique si ça vous amuse, ça n'a rien de criminel !» Madame de Cambremer ne trouva pas l'invitation assez pressante et s'abstint. Une telle transmutation, opérée par madame de Sainte-Verte, d'un salon de lépreux en un salon de grande dame, la dernière forme, en apparence ultra chic, qu'il avait prise. On pouvait s'étonner que la personne qui donnait le lendemain la fête la plus brillante de la saison eût eu besoin de venir la veille adresser un suprême appel à ses troupes. Mais c'est que la prééminence du salon Sainte-Verte n'existait que pour ceux dont la vie mondaine consiste seulement à lire le compte-rendu des matinées et soirées, dans le Gaulois ou le Figaro, sans être jamais allé à aucune. À ces mondains, qui ne voient le monde que par le journal, l'énumération des ambassadrices d'Angleterre, d'Autriche, etc., des duchesses d'Uzès, de la Trémoille, etc., etc., suffisait pour qu'ils s'imaginassent volontiers le salon Sainte-Verte comme le premier de Paris, alors qu'il était un des derniers. Non que les comptes rendus fussent mensongers, la plupart des personnes citées avaient bien été présentes. Mais chacune était venue à la suite d'implorations, de politesses, de services, et en ayant le sentiment d'honorer infiniment madame de Sainte-Verte. De tels salons, moins recherchés que fuit, et où on va, pour ainsi dire, en service commandé, ne font illusion qu'aux lectrices de mondanité. Elles glissent sur une fête vraiment élégante, celle-là où la maîtresse de la maison, pouvant avoir toutes les duchesses, lesquelles brûlent d'être parmi les élus, ne demandent qu'à deux ou trois, et ne font pas mettre le nom de leurs invités dans le journal. Aussi, ces femmes, méconnaissant ou dédaignant le pouvoir qu'a pris aujourd'hui la publicité, sont-elles élégantes pour la reine d'Espagne, mais méconnues de la foule, parce que la première sait et que la seconde ignore qui elles sont. Madame de Sainte-Verte n'était pas de ces femmes, et en bonne butineuse, elle venait cueillir pour le lendemain tout ce qui était invité. Monsieur de Charlus ne l'était pas, il avait toujours refusé d'aller chez elle. Mais il était brouillé avec tant de gens que madame de Sainte-Verte pouvait mettre cela sur le compte du caractère. Certes, s'il n'y avait eu là qu'Oriane, madame de Sainte-Verte eût pu ne pas se déranger, puisque l'invitation avait été faite de vive voix, et d'ailleurs acceptée, avec cette charmante bonne grâce trompeuse dans l'exercice de laquelle triomphent ses académiciens, de chez lesquels le candidat sort attendri et ne doutant pas qu'il peut compter sur leur voix. Mais il n'y avait pas qu'elle. Le prince d'Agrigente viendrait-il ? Et madame de Durfort ? Aussi, pour veiller au grain, madame de Sainte-Verte avait-elle cru plus expédient de se transporter elle-même. Insinuante avec les uns, impérative avec les autres, pour tous elle annonçait à mots couverts d'inimaginables divertissements qu'on ne pourrait revoir une seconde fois, et à chacun promettait qu'il trouverait chez elle la personne qu'il avait le désir ou le personnage qu'il avait le besoin de rencontrer. Et cette sorte de fonction dont elle était investie pour une fois dans l'année, telle certaines magistratures du monde antique, de personne qui donnera le lendemain la plus considérable garden party de la saison, lui conférait une autorité momentanée. Ces listes étaient faites et closes, de sorte que, tout en parcourant les salons de la princesse avec lenteur pour verser successivement dans chaque oreille, « Vous ne m'oublierez pas demain. » Elle Elle avait la gloire éphémère de détourner les yeux, en continuant à sourire, si elle apercevait un laideron à éviter, ou quelque obereau qu'une camaraderie de collège avait fait admettre chez Gilbert, et duquel la présence à sa garden party n'ajouterait rien. Elle préférait ne pas lui parler, pour pouvoir dire ensuite « J'ai fait mes invitations verbalement, et malheureusement je ne vous ai pas rencontré. » Ainsi, elle, simple sainte Verte, faisait-elle de ses yeux fureteurs un tri dans la composition de la soirée de la princesse. Et elle se croyait, en agissant ainsi, une vraie duchesse de Guermantes. Il faut dire que celle-ci n'avait pas non plus, tant qu'on pourrait croire, la liberté de ses bonjours et de ses sourires. Pour une part, sans doute, quand elle les refusait, c'était volontairement. « Mais elle m'embête, disait-elle. Est-ce que je vais être obligée de lui parler de sa soirée pendant une heure ?» On vit passer une duchesse fort noire, que sa laideur et sa bêtise, et certains écarts de conduite, avaient exilée, non de la société, mais de certaines intimités élégantes. « Ah !» susurra madame de Guermantes avec le coup d'œil exact et désabusé du connaisseur à qui on montre un bijou faux. « On reçoit ça, ici !» Sur la seule vue de la dame à demi tarée et dont la figure était encombrée de trop de grains de poils noirs, madame de Guermantes cotait la médiocre valeur de cette soirée. Elle avait été élevée, mais avait cessé toute relation avec cette dame. Elle ne répondit à son salut que par un signe de tête des plus secs. « Je ne comprends pas, » me dit-elle comme pour s'excuser, « que Marie Gilbert nous invite avec toute cette lie. On peut dire qu'il y en a ici de toutes les paroisses. C'était beaucoup mieux arrangé chez Mélanie pour Thalès. Elle pouvait avoir le Saint-Synode et le Temple de l'Oratoire si ça lui plaisait. Mais au moins, on ne nous faisait pas venir ces jours-là. » Mais pour beaucoup, c'était par timidité, peur d'avoir une scène de son mari qui ne voulait pas qu'elle reçût des artistes, etc. Marie Gilbert en protégeait beaucoup. Il fallait prendre garde de ne pas être abordée par quelque illustre chanteuse allemande, par quelque crainte aussi à l'égard du nationalisme qu'en tant que détenant, comme M. de Charlus, l'esprit des Guermantes, elle méprisait au point de vue mondain. On faisait passer maintenant, pour glorifier l'état-major, un général plébéien avant certains ducs, mais auquel, pourtant, comme elle se savait côté mal-pensante, elle faisait de larges concessions, jusqu'à redouter d'avoir à tendre la main à Swann dans ce milieu antisémite. À cet égard, elle fut vite rassurée, ayant appris que le prince n'avait pas laissé entrer Swann et avait eu avec lui une espèce d'altercation. Elle ne risquait pas d'avoir à faire publiquement la conversation avec « pauvre Charles », qu'elle préférait chérir dans le privé. « Et qu'est-ce encore que celle-là » s'écria madame de Guermantes en voyant une petite dame, l'air un peu étrange, dans une robe noire tellement simple qu'on aurait dit une malheureuse, lui faire, ainsi que son mari, un grand salut. Elle ne la reconnut pas et, ayant de ses insolences, se redressa comme offensée et regarda, sans répondre, d'un air étonné. « Qu'est-ce que c'est que cette personne, Bazin ? » demanda-t-elle d'un air étonné, pendant que M. de Guermantes, pour réparer l'impolitesse d'Oriane, saluait la dame et serrait la main du mari. « Mais c'est madame de Chaussepierre, vous avez été très impolie. » « Je ne sais pas ce que c'est, Chaussepierre. »« Le neveu de la vieille mère Chanliveau. »« Je ne connais rien de tout ça. Qui est la femme? Pourquoi me salue-t-elle? »« Mais vous ne connaissez que ça. C'est la fille de madame de Charleval, Henriette Montmorency. »« Ah! Mais j'ai très bien connu sa mère. Elle était charmante, très spirituelle. Pourquoi a-t-elle épousé tous ces gens que je ne connais pas? « Vous dites qu'elle s'appelle madame de Chaussepierre » dit-elle en épelant ce dernier mot d'un air interrogateur, et comme si elle avait peur de se tromper. Le duc lui jeta un regard dur. « Cela n'est pas si ridicule que vous avez l'air de croire de s'appeler Chaussepierre. Le vieux Chaussepierre était le frère de la Charleval, déjà nommé, de Madame de Sénécourt et de la vicomtesse de Merleraux. Ce sont des gens bien. » « Ah, assez !» s'écria la duchesse, qui, comme une dompteuse, ne voulait jamais avoir l'air de se laisser intimider par les regards dévorants du fauve. « Bazin, vous faites ma joie. Je ne sais pas où vous avez été déniché ces noms, mais je vous fais tous mes compliments. Si j'ignorais Chaussepierre, j'ai lu Balzac. Vous n'êtes pas le seul, et j'ai même lu La Biche. J'apprécie Champlivaud, je ne hais pas Charleval, mais j'avoue que du Merleraux est le chef-d'œuvre. Du reste, avouons que Chaussepierre n'est pas mal non plus. Vous avez collectionné tout ça, ce n'est pas possible. Vous qui voulez faire un livre, me dit-elle, vous devriez retenir Charleval et du Merleraux. Vous ne trouverez pas mieux. Il se fera faire tout simplement procès et il ira en prison. Vous lui donnez de très mauvais conseils, Oriane. J'espère pour lui qu'il a à sa disposition des personnes plus jeunes s'il a envie de demander de mauvais conseils et surtout de les suivre. Mais s'il ne veut rien faire de plus mal qu'un livre. Assez loin de nous, une merveilleuse et fière jeune femme se détachait doucement dans une robe blanche, tout en diamants et en tulle. Madame de Guermantes la regarda, qui parlait devant tout un groupe aimanté par sa grâce. « Votre sœur est partout la plus belle. Elle est charmante ce soir, » dit-elle, tout en prenant une chaise au prince de Chimay qui passait. Le colonel de Frobertville, il avait pour oncle le général du même nom, vint s'asseoir à côté de nous, ainsi que M. de Bréauté, tandis que M. de Vaugoubert, se dandinant, par un excès de politesse qu'il gardait même quand il jouait au tennis, ou, à force de demander des permissions aux personnages de marquer avant d'attraper la balle, il faisait inévitablement perdre la partie à son camp, retournait auprès de M. de Chartu, jusque-là quasi enveloppé par l'immense jupe de la comtesse Molé, qu'il faisait profession d'admirer entre toutes les femmes. Et, par hasard, au moment où plusieurs membres d'une nouvelle mission diplomatique à Paris saluaient le baron. À la vue d'un jeune secrétaire à l'air particulièrement intelligent, M. de Vaugoubert fixa sur M. de Charlus un sourire où s'épanouissait visiblement une seule question. M. de Charlus eût peut-être volontiers compromis quelqu'un, mais se sentir, lui, compromis par ce sourire partant d'un autre et qui ne pouvait avoir qu'une signification, l'exaspéra. « Je n'en sais absolument rien. Je vous prie de garder vos curiosités pour vous-même. Elles me laissent plus que froid. Du reste, dans le cas particulier, vous faites un impair de tout premier ordre. Je crois ce jeune homme absolument le contraire. » Ici, M. de Charlus, irrité d'avoir été dénoncé par un sot, ne disait pas la vérité. Le secrétaire eut, si le baron avait dit vrai, fait exception dans cette ambassade. Elle était, en effet, composée de personnalités fort différentes, plusieurs extrêmement médiocres, en sorte que, si l'on cherchait quel avait pu être le motif du choix qui s'était porté sur elle, on ne pouvait découvrir que l'inversion. En mettant à la tête de ce petit Sodome diplomatique, un ambassadeur aimant au contraire les femmes avec une exagération comique de compères de revue, qui faisait manœuvrer en règle son bataillon de travestis, on semblait avoir obéi à la loi des contrastes. Malgré ce qu'il avait sous les yeux, il ne croyait pas à l'inversion. Il en donna immédiatement la preuve en mariant sa sœur à un chargé d'affaires qu'il croyait bien faussement un coureur de poules. Dès lors, il devint un peu gênant et fut bientôt remplacé par une excellence nouvelle qui assura l'homogénéité de l'ensemble. D'autres ambassades cherchèrent à rivaliser avec celle-là, mais elles ne purent lui disputer le prix, comme au concours général où un certain lycée l'a toujours. Et il fallut que plus de 10 ans se passassent avant que, des attachés hétérogènes s'étant introduits dans ce tout si parfait, une autre put enfin lui arracher la funeste palme et marcher en tête. Rassurée sur la crainte d'avoir à causer avec Swann, Madame de Guermantes n'éprouvait plus que de la curiosité au sujet de la conversation qu'il avait eue avec le maître de maison. « Savez-vous à quel sujet ?» demanda le duc à M. de Bréauté. « J'ai entendu dire, répondit celui-ci, que c'était à propos d'un petit acte que l'écrivain Bergotte avait fait représenter chez eux. C'était ravissant d'ailleurs. Mais il paraît que l'acteur s'était fait la tête de Gilbert, que d'ailleurs le sieur Bergotte aurait voulu en effet dépeindre. Tiens, cela m'aurait amusé de voir contrefaire Gilbert, dit la duchesse en souriant rêveusement. C'est sur cette petite représentation, reprit M. de Bréauté en avançant sa mâchoire de rongeur, que Gilbert a demandé des explications à Swann, qui s'est contenté de répondre ce que tout le monde trouva très spirituel. Mais pas du tout, cela ne vous ressemble en rien, vous êtes bien plus ridicule que ça. Il paraît du reste, reprit M. de Bréauté, que cette petite pièce était ravissante. Madame Mollet y était, elle s'est énormément amusée. Comment, Madame Mollet va là ? Dit la duchesse étonnée. Ah, c'est Mémé qui aura arrangé cela. C'est toujours ce qui finit par arriver avec ces endroits-là. Tout le monde, un beau jour, se met à y aller. Et moi, qui me suis volontairement exclue par principe, je me trouve seule à m'ennuyer dans mon coin. Déjà, depuis le récit que venait de leur faire M. de Bréauté, la duchesse de Guermantes, sinon sur le salon Swann, du moins sur l'hypothèse de rencontrer Swann dans un instant, avait, comme on voit, adopté un nouveau point de vue. L'explication que vous nous donnez, dit à M. de Bréauté le colonel de Frobertville, est de tout point controuvée. J'ai mes raisons pour le savoir. Le prince a purement et simplement fait une algarade à Swann et lui a fait à savoir, comme disaient nos pères, de ne plus avoir à se montrer chez lui, étant donné les opinions qu'il affiche. Et selon moi, mon oncle Gilbert a eu mille fois raison, non seulement de faire cette algarade, mais aurait dû en finir il y a plus de 6 mois avec un Dreyfusard avéré. Le pauvre monsieur de Vaucoubert, devenu cette fois-ci de trop lambin-joueur de tennis, une inerte balle de tennis elle-même qu'on lance sans ménagement, se trouva projeté vers la duchesse de Guermantes, à laquelle il présenta ses hommages. Il fut assez mal reçu, Oriane vivant dans la persuasion que tous les diplomates, ou hommes politiques, de son monde étaient des nigauds. M. de Frobertville avait forcément bénéficié de la situation de faveur qui, depuis peu, était faite aux militaires dans la société. Malheureusement, si la femme qu'il avait épousée était parente très véritable des Guermantes, c'en était une aussi extrêmement pauvre, et comme lui-même avait perdu sa fortune, il n'avait guère de relations. Et c'était de ces gens qu'on laissait de côté, hors des grandes occasions, quand ils avaient la chance de perdre ou de marier un parent. Alors, ils faisaient vraiment partie de la communion du grand monde, comme les catholiques de nom qui ne s'approchent de la Sainte Table qu'une fois l'an. Leur situation matérielle eût même été malheureuse si Madame de Sainte-Verte, fidèle à l'affection qu'elle avait eue pour feu le général de Frobertville, n'avait pas aidé de toute façon le ménage, donnant des toilettes et des distractions aux deux petites filles. Mais le colonel, qui passait pour un bon garçon, n'avait pas l'âme reconnaissante. Il était envieux des splendeurs d'une bienfaitrice, qui les célébrait elle-même sans trêve et sans mesure. La gardenne partaine était, pour lui, sa femme et ses enfants, un plaisir merveilleux qu'ils n'eussent pas voulu manquer pour tout l'or du monde, mais un plaisir empoisonné par l'idée des joies d'orgueil qu'en tirait Madame de Sainte-Verte. L'annonce de cette gardenne partie dans les journaux, qui, ensuite, après un récit détaillé, ajoutait machiavéliquement Nous reviendrons sur cette belle fête. » Les détails complémentaires sur les toilettes, donnés pendant plusieurs jours de suite, tout cela faisait tellement mal au Frobertville que, assez sevré de plaisir et qui savait pouvoir compter sur celui de cette matinée, en arrivait chaque année à souhaiter que le mauvais temps engênât la réussite, à consulter le baromètre et à anticiper avec délices les prémices d'un orage qui pût faire rater la fête.
« Je ne discuterai pas politique avec vous, Frobertville, » dit M. de Guermantes. « Mais pour ce qui concerne Swann, je peux dire franchement que sa conduite à notre égard a été inqualifiable. Patronné jadis dans le monde par nous, par le duc de Chartres, on me dit qu'il est ouvertement dreyfusard. Jamais je n'aurais cru cela de lui un fin gourmet, un esprit positif, un collectionneur, un amateur de vieux livres, membre du jockey, un homme entouré de la considération générale, un connaisseur de bonnes adresses qui nous envoyait le meilleur porto qu'on puisse boire, un dilettante, un père de famille. Ah, j'ai été bien trompée. Je ne parle pas de moi. Il est convenu que je suis une vieille bête, dont l'opinion ne compte pas, une espèce de va-nu-pied. Mais rien que pour Oriane, il n'aurait pas dû faire cela. Il aurait dû désavouer ouvertement les Juifs et les sectateurs du condamné.
Oui, après l'amitié que lui a toujours témoignée ma femme, reprit le duc, qui considérait évidemment que condamner Dreyfus pour haute trahison, quelque opinion qu'on eût dans son fort intérieur sur sa culpabilité, constituait une espèce de remerciement pour la façon dont on avait été reçu dans le faubourg Saint-Germain. Il aurait dû se désolidariser, car, demandez à Oriane, elle avait vraiment de l'amitié pour lui.
La duchesse, pensant qu'un ton ingénu et calme donnerait une valeur plus dramatique et sincère à ses paroles, dit d'une voix d'écolière, comme laissant sortir simplement la vérité de sa bouche et en donnant seulement à ses yeux une expression un peu mélancolique. « Mais c'est vrai, je n'ai aucune raison de cacher que j'avais une sincère affection pour Charles. Là, vous voyez, je ne le lui fais pas dire. Et après cela, il pousse l'ingratitude jusqu'à être dreyfusard. »
« À propos de dreyfusard, dis-je, il paraît que le prince von l'est. »
« Vous faites bien de me parler de lui !» s'écria M. de Guermantes. « J'avais oublié qu'il m'a demandé de venir dîner lundi. Mais qu'il soit dreyfusard ou non, cela m'est parfaitement égal puisqu'il est étranger. Je m'en fiche comme de colle un tampon. Pour un Français, c'est autre chose. Il est vrai que Swann est juif, mais jusqu'à ce jour, excusez-moi, Frobertville, j'avais eu la faiblesse de croire qu'un juif peut être français. J'entends... un juif honorable, homme du monde. Or, Swann était cela dans toute la force du terme. Eh bien, il me force à reconnaître que je me suis trompée, puisqu'il prend parti pour ce Dreyfus, qui, coupable ou non, ne fait nullement partie de son milieu, qu'il n'aurait jamais rencontré, contre une société qu'il avait adoptée, qu'il avait traitée comme un des siens. Il n'y a pas à dire, nous nous étions tous portés garants de Swann. J'aurais répondu de son patriotisme, comme du mien. Ah, il nous récompense bien mal. J'avoue que de sa part, je ne me serais jamais attendu à cela. Je le jugeais mieux. Il avait de l'esprit, dans son genre, bien entendu. Je sais bien qu'il avait déjà fait l'insanité de son honteux mariage. Tenez, savez-vous quelqu'un à qui le mariage de Swann a fait beaucoup de peine? C'est à ma femme. Oriane a souvent ce que j'appellerais une affectation d'insensibilité. Mais au fond, elle ressent avec une force extraordinaire.
Madame de Guermantes, ravie de cette analyse de son caractère, l'écoutait d'un air modeste, mais ne disait pas un mot, par scrupule d'acquiescer à l'éloge, et surtout par peur de l'interrompre. Monsieur de Guermantes aurait pu parler une heure sur ce sujet, qu'elle eût encore moins bougé que si on lui avait fait de la musique.
« Eh bien, je me rappelle, quand elle a appris le mariage de Swann, elle s'est sentie froissée.
Elle a trouvé que c'était mal de quelqu'un à qui nous avions témoigné tant d'amitié. Elle aimait beaucoup Swann. Elle a eu beaucoup de chagrin. N'est-ce pas, Oriane ?
Madame de Guermantes crut devoir répondre à une interpellation aussi directe sur un point de fait qui lui permettrait, sans en avoir l'air, de confirmer des louanges qu'elle sentait terminées. D'un ton timide et simple, et d'un air d'autant plus appris qu'il voulait paraître senti, elle dit avec une douceur réservée « C'est vrai, Bazin ne se trompe pas. »
Et pourtant, ce n'était pas encore la même chose. Que voulez-vous ? L'amour est l'amour, quoique, à mon avis, ils doivent rester dans certaines bornes. J'excuserai encore un jeune homme, un petit morveux, se laissant emballer par les utopies. Mais Swann, un homme intelligent, d'une délicatesse éprouvée, un fin connaisseur en tableaux, un familier du duc de Chartres, de Gilbert lui-même. »
Le ton dont M. de Guermantes disait cela était d'ailleurs parfaitement sympathique, sans ombre de la vulgarité qu'il montrait trop souvent. Il parlait avec une tristesse légèrement indignée, mais tout en lui respirait cette gravité douce qui fait le charme onctueux et large de certains personnages de Rembrandt. Le bourgmestre VI, par exemple. On sentait que la question de l'immoralité de la conduite de Swann dans l'affaire ne se posait même pas pour le duc, tant elle faisait peu de doute. Il en ressentait l'affliction d'un père, voyant un de ses enfants, pour l'éducation duquel il a fait les plus grands sacrifices, ruiner volontairement la magnifique situation qu'il lui a faite, et déshonorer, par des frasques que les principes ou les préjugés de la famille ne peuvent admettre, un nom respecté. Il est vrai que M. de Guermantes n'avait pas manifesté autrefois un étonnement aussi profond et aussi douloureux quand il avait appris que Saint-Loup était Dreyfusard. Mais d'abord, il considérait son neveu comme un jeune homme dans une mauvaise voie et de qui rien, jusqu'à ce qu'il se soit amendé, ne saurait étonner. Tandis que Swann était ce que M. de Guermantes appelait un homme pondéré, un homme ayant une position de premier ordre. Ensuite, et surtout, un assez long temps avait passé, pendant lequel, si, au point de vue historique, les événements avaient en partie semblé justifier la thèse dreyfusiste, l'opposition anti-dreyfusarde avait redoublé de violence, et de purement politique, d'abord, était devenue sociale. C'était maintenant une question de militarisme, de patriotisme, et les vagues de colère soulevées dans la société avaient eu le temps de prendre cette force qu'elles n'ont jamais au début d'une tempête.
« Voyez-vous, reprit M. de Guermantes, même au point de vue de ces chers juifs, puisqu'il tient absolument à les soutenir, Swann a fait une boulette d'une portée incalculable. Ils prouvent qu'ils sont, en quelque sorte, forcés de prêter appui à quelqu'un de leur race, même s'ils ne le connaissent pas. C'est un danger public. Nous avons évidemment été trop coulants, et la gaffe que commet Swann aura d'autant plus de retentissement qu'il était estimé, même reçu, et qu'il était à peu près le seul juif qu'on connaissait. On se dira « Abuno disque omnes ». La satisfaction d'avoir trouvé à point nommé dans sa mémoire une situation si opportune éclaira seule d'un orgueilleux sourire la mélancolie du grand seigneur trahi.